Bienvenue dans la deuxième saison de Cast. Le principe n'a pas changé. On reçoit toutes les semaines les personnalités qui font et défont la mode. Des talents, mais surtout des histoires de vie touchantes et inspirantes. Chacun leur tour, nos invités viennent nous raconter sans détour leur parcours, leur expérience et leur vision de l'industrie. C'est parti.
I do not want to comment.
Je me suis donné toutes les réponses dont j'avais besoin.
Et la Fashion Week ?
Ils se mettent sur le trottoir, les fashion.
What are those ? Dior clothes.
It's fashion art.
Yeah. Fashion is hard work, gritty, it's not glamorous.
Ok, you know now, oh, les dés sont jetés. It means like, what can happen, you know ? That's all.
On reçoit aujourd'hui Osama Chabi, plus connu sous le diminutif Ossa. Lyonnais de naissance, tunisien d'origine et surtout passionné de mode depuis le plus jeune âge. Aujourd'hui, il s'illustre en tant que styliste, mais aussi en tant que commentateur mode à la plume et à l'humour bien aiguisé. On a adoré sa bonne humeur communicative, sa franchise et son audacieux sens du risque. Salut Osama.
Salut, ça va.
Merci d'être avec nous.
Merci à vous.
Dis-nous un peu...
Qui tu es.
Qui
d'où
suis.
Tu viens, ton
Alors.
Parcours... Tout.
Ah, yeah, on va rester 3 semaines ici. Là.
Tant mieux.
On va rester longtemps.
T'es d'où déjà à la base ?
Je suis à 25 minutes de Lyon.
Okay.
On dit 25 minutes parce que c'est Courtoisam.
Ouais.
Mais je suis à ça s'appelle Villefranche.
Ok.
Donc c'est à. Ouais, c'est ça, 30 km. On va dire 30 km pour okay. être correct là. 30 km de Lyon. Je suis à côté de Lyon. Mais j'ai fait mes études à Lyon.
Ok.
Et de Lyon, je suis parti à Dubaï.
Ah, direct.
Ah ouais, attends, genre, on va commencer à raconter la transition.
Raconte-nous un peu ton parcours scolaire, c'était comment ?
Parcours scolaire...
Je sens bien premier de la classe, moi je sens bien.
Non. Ah, c'était un petit peu tendu là. Non, en vrai, c'était une pipelette.
Okay.
Donc c'était cool parce que c'était une pipelette. Parcours scolaire, j'étais un petit obsédé de mode depuis gamin.
Okay.
Depuis gamin et...
c'est quoi ton premier truc de mode, quoi ? Comment tu deviens obsessed par ça ? C'est quoi les magazines ?
Je dessinais de ouf.
Okay.
Je dessinais de ouf et un jour je suis en cours d'art plastique et tout, je suis en train de faire un truc de clochard, là, je suis en train de faire des petits dessins et la prof elle m'arrache le truc de la main, elle me dit mais vous venez me voir à la fin du truc et tout, donc je viens la voir et tout, elle me dit écoutez moi j'ai parlé avec plein de profs et tout, on va faire une pétition, vous allez aller aux Beaux-Arts et tout, je dis Beaux-Arts quoi,
ah ouais.
Je rentre à la maison, moi je dis non là, et du coup... ça s'est jamais fait, ils étaient déter pour que je fasse un truc et tout.
Okay.
Et à la maison, ils étaient pas contre du tout, hein. C'est juste que la finalité du truc, elle était un peu floue, ils savaient pas où est-ce que ça pouvait potentiellement
t'amener.
Tu vas dessiner, pourquoi là ? C'est pour être architecte ou tu veux faire des manteaux ? Tu vois, ils savaient pas trop. Donc ça s'est jamais fait et du coup, la même prof, genre 6 ans plus tard, c'est la prof d'art plastique de ma sœur. Et un jour, ma sœur, elle rentre avec son truc et elle fait tomber son classeur. Et je vois un de mes dessins qui sort de son truc. Et je prends le papier, je dis mais c'est à moi ça. Elle me dit mais c'est mes devoirs, arrête de mytho. Je dis mais je te jure que c'est mon papier. Du coup j'ai fait un courrier à la meuf et tout, je suis parti là-bas, je dis c'est moi, j'existe encore et tout.
Trop drôle.
Le début c'était ça, genre j'étais affolé.
Mais c'est quoi l'inspiration ? C'est les femmes de ta famille ? C'est les magazines ? C'est quoi ton premier souvenir mode ? On aime bien poser
genre
cette question.
Gamin.
Ouais.
C'était à la maison. Tout le temps, quand il y a une petite crise et tout, on vient toquer à ma porte et tout. Et on m'appelait Soussou quand j'étais petit.
Ouais.
Il s'est ramené Soussou, là, dit tu veux savoir et tout. Je venais, il me donnait, on me demandait mon avis un petit peu. Et tu prends confiance quand t'es gosse. Moi, j'avais 5-6 ans, on me demande mon avis. Je faisais 10 à demander mon avis, c'est mortel et tout. Donc, je voulais me donner mon avis à droite, à gauche, pour que je prends la confiance et tout. Donc, c'était les premières fois où vraiment je me suis rendu compte que c'était un truc que je kiffais de ouf.
De quoi ? Mais genre ton avis sur les outfits, c'est
ouais,
ça ?
Ouais, genre ma mère, elle venait avec un gros caftan, elle disait « ceinture, pas ceinture » et tout, je disais « ouais,
tu vois ».
Donc moi, c'est ça qui m'a vraiment mis en confiance. Et après, c'est vrai que je me sentais vu par les profs et tout. Genre des fois, je mettais grave du temps à sortir de la classe. Je mettais du temps à ramasser mes affaires et les profs, ils venaient me voir, ils étaient doux de ouf. C'est ouais, je vous regarde quand même beaucoup et tout. ils pensaient que j'étais blindax, soit je volais mes affaires. Et moi, c'est juste un malin, tu vois. Et je sais pas, c'était mortel. Moi, je me rappelle en étant, j'avais genre il y a 15 piges, j'étais trop saucé. J'entrais chez moi, j'ai la prof d'histoire. J'ai ouais, elle a dit que bah, c'était trop beau mon pull. J'étais saucé de ouf.
C'est énorme.
J'étais saucé de ouf. Donc, première intro, c'était ça.
Ok, et si on revient à la scolarité, du coup, tu disais, j'ai quoi, fait... moyen ou...
Non, franchement, ça va en vrai. Hein.
Bonne
c'était
élève.
Pas bon élève, pas premier de la classe. Bon élève, ça va, genre, on m'aimait bien quand même, tu vois.
Ouais.
C'est du bruit un petit peu, mais je parlais très bien, donc on se disait, on va quand même bien l'aimer. Donc ça, c'était cool.
Ok.
Et les études de mode, ça m'a jamais traversé l'esprit.
Ok.
Vraiment, c'était un no-go.
Ah,
pourquoi
ouais.
Je voulais absolument pas faire des études de mode. Je me suis dit, en fait, j'avais trop peur de me retrouver dans un circuit genre d'un circuit scolaire mm-hmm. où t'essayes et tu te morfles le truc et ça marche pas.
La peur de l'échec, du coup.
La peur de sortir avec un papier qui prouve que tu peux, mais au final, tu peux pas. Et je me suis dit, non, je sais pas, j'avais du mal avec le. Puis en plus, créer, ça m'intéressait pas trop. Okay. J'avais jamais voulu designer, c'était pas mon truc. Donc je me suis dit, vas-y, en vrai, on va. En fait, je voyais pas ce qu'on pouvait m'apprendre. Tu vois, je suis pas là pour faire des croquis, mm-hmm. des patronages et tout. Donc c'est vrai que je me demandais ce qu'on pouvait. Tu pouvais sortir avec un diplôme de quoi, là ? De donner son avis ? Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc j'étais dans le flou, en fait. Je me suis dit, bon, on fait comment ?
Il n'y a pas journalisme, du coup, parce que ça...
Journalisme. Ça ne me traverse pas l'idée directement, parce que je me dis qu'il faut une légitimité énorme pour donner son avis, et je me dis qu'il faut avoir baigné dans le truc pendant 20 piges, et qu'on te dise, écoute, ah ouais, ton avis, on va écouter ton avis à toi, là.
Ouais.
Tu vois ? Et moi, j'avais du mal à me dire que mon avis puisse être légitime de quelconque manière qu'il soit, en vrai. Et donc voilà, je fais des études de langue.
Ok, donc tu passes ton bac, tu fais une fac, fac de langue.
Je passe mon bac ES.
Ouais.
Et après, je fais une fac de langue et j'ai de la com à côté.
Ok, genre donc, pour une. Peut-être t'avais quoi, un petit job?
J'avais. C'était mon option sur mon truc et tout. Donc j'avais du marketing et beaucoup de com parce que je pensais que j'allais me diriger vers la publicité. C'était le truc un peu flou, je me disais, ça ressemble à quelque chose. Il y a des gens qui parlent autour d'une table et tout, là, ça donne son avis. Faut aller là-bas et tout.
Toi, t'adores donner ton avis.
Je me chauffais déjà, il faut donner son avis et tout. Et voilà, puis finalement, je me retrouve avec une licence qui mène, Dieu seul sait, on sait pas où on va là. Ouais. On dit alors, en master, c'est quoi les plans et tout. Donc là, je commence à regarder des options de master et tout. Je me suis dit, je vais faire un truc dans le luxe et tout. Je me suis dit, vas-y, donc je regarde, je fouille. Et là, je voulais partir. Absolument partir.
De la France.
Ouais.
Ou de Lyon.
De la France.
Ok.
Mais j'ai pas cherché bien loin, je regardais à Monaco. J'avais des rêves pourris. Non, mais tu vois ou pas ? Je regardais et tout. J'ai dit, ah ouais, il y a une université. Ça se voit que c'est une carotte, tu vois. J'ai vu une université à Monaco et tout. Je disais déjà à mes potes, je dis, non, mais moi, la semaine prochaine, je vis plus à Lyon, j'ai à Monaco.
Je suis à Monaco.
T'as compté ? Je dis, mais je suis à Monaco là, en fait.
C'est énorme.
Monaco, rien du tout. C'est pas du tout ce qui s'est passé.
Ok. Ah,
non, ouais, j'imagine.
Du coup, c'est quoi la suite ? Le master, tu le fais ? Tu le fais pas ?
Le master, je le fais pas.
Ouais.
Donc, en 2016, je vais pour la première fois à Dubaï avec mes parents.
Ok.
Et,
en vacances ?
Genre, vacances, ouais. Genre 10 jours. Et je suis trop yimbe. Je me sens trop bien et tout. Et je rentre du voyage. Et moi, à côté de mes études, j'avais un job étudiant. Donc, je bossais chez Zara. Et je rentre, je fais une table de jean là. Je pense que ça va pas être bien.
Ah je sais pas. Dubaï Zara à Lyon, pour peu que tu sois dans une galerie commerciale, un truc comme ça.
En plus, ça va, j'étais sur rue. C'était en Zara, ça va. Tu vois. Mais à faux, c'est quand même. C'était pas marrant là. Bon, après, je venais de la fac en plus, donc je me disais, ça va, je suis pas là tous les jours et tout, mais c'est mal passé. Et tu sais, en plus, j'étais grave bronzé, je me disais, tu reviens d'où ?
Ah, je reviens de Dubaï.
Mais c'est pas chez toi là. Donc c'était chaud et tout, et donc là donc on rentre et tout, et je parle que de ça chez moi. Et ma mère, j'entends parler, à chaque fois j'entends parler avec quelqu'un, j'aurais jamais dû l'emmener là-bas, il n'a regardé maintenant, il veut plus, il est plus content et tout. Et moi j'étais blasé, j'étais blasé.
Dégoûté d'être rentré en fait.
Dégoûté, et en fait j'ai le souvenir, je me souviens un jour on est sur la plage, et t'avais Kenzo qui faisait un event sur la plage, c'était un espèce de bus avec la collection dedans et tout. Et je me suis saucé pour rentrer. Donc je rentre et tout avec mon petit sac à dos et tout. Et je croise la représentante presse de Kenzo. Et elle me questionne pas en fait sur moi, ce que je fais dans le truc. Alors qu'en vrai, je me sentais pas forcément à ma place. Elle me dit « Which publication ?» J'ai dit « Ah, il y a quelque chose là. » Je commence à inventer un nom de publication sur le tas et tout. Je suis sorti un truc qui n'existait pas. Elle me dit « Vous avez une carte ?» Je lui dis « Non, j'avais pas de carte évidemment.
Okay. »
Je lui dis « Donnez votre carte, c'est mieux et tout. » Vous donnez votre carte et tout. Je sors du truc. Genre, j'ai passé une demi-heure avec eux. Elle me donne le sac presse avec le press kit et tout. C'est la première fois de ma life. Et je dis, ah ouais, tout. Je me voyais déjà, je commence à visualiser le truc là. Je me disais, et tout, c'est bonne ambiance.
C'est là que je veux être.
J'ai dit, c'est là que je veux être et tout. Puis ça se voyait que le truc, il était au début en vrai. Parce que pour que moi, là, je rentre avec, j'ai 16 piges. Avec mon petit t-shirt comme des garçons, tu penses que je suis un édito. On est au zéro là, on est au moins deux du truc, tu vois ou pas? Ou à moins que j'avais vraiment confiance en moi, mon nez était là, mais je pense pas.
Je pense que c'est le culot en vrai aussi,
tu vois.
J'étais trop à l'aise. Je touchais les pièces, ça c'est moyen. Toi, c'est très bien.
De toute façon, t'étais dans ton univers, donnais ton avis, c'est ton truc.
C'est sûr, la meuf, elle s'il fallait pas qu'on gratouille un petit peu, j'aurais donné mon avis. J'aurais pas lâché le bus. C'était un bus, je serais parti avec le bus. Et, Donc je rentre en France, mm-hmm. et là je me dis, il faut absolument que je trouve un stage. Mm-hmm. De cocoute et tout, donc la meuf qui m'a donné sa carte, tu envoies un mail avec un faux blaze pour demander un stage, parce que je suis pas édito là.
Bien sûr.
J'ai jamais répondu. J'ai jamais répondu. Et là, je me fais quelques potes sur Insta et tout, que je vois, c'est des, genre des créatifs de la scène et tout.
Ouais.
Et, Paris ou France ou Dubaï?
Mais okay. je suis à Lyon en ce moment.
Mais t'essaies de connecter online avec, ouais, avec des gens de Dubaï.
Peut-être okay. qu'il y a moyen et tout. Et à l'époque, Snapchat, c'est big de ouf pour okay. Snapchat. Et je deviens pote avec... c'est un bon pote à moi aujourd'hui qui a une grosse agence presse sur Dubaï. Mm-hmm. Et on devient pote sur Snap et tout, on rigole, ta et tout. Ça dure quand même genre... Bon, je suis en France, moi, de toute façon, mm-hmm. et ma vie, elle reprend son cours, C'est bon, là. Et je lui dis... Je suis en deuxième année de fac à ce moment-là, j'ai pas encore ma licence. Hein. Donc okay. je me dirige vers la fin de la licence. Et je lui dis, j'ai une question et tout, cherche un stage et tout. Non. Puis mon diplôme, il a rien à voir. Enfin, tu vois, donc je meuble ouais. un petit peu et tout.
Parce que t'es en langue, mais c'est quoi les langues que t'apprends du coup, les langues sur lesquelles tu travailles? Allez, vas-y.
Moi, j'ai peur.
C'est de l'allemand. C'est de l'allemand.
Mais c'est quoi?
C'est de l'anglais et de l'allemand. Donc j'ai fait 8 ans d'allemand.
Oh.
On peut serrer la main.
C'est tendu là.
On peut serrer la main.
Je peux faire.
Ah, vous êtes deux ouf, ok.
Ah, t'as fait l'allemand.
Bah oui. Non, mais elle, au moins, elle a la proximité. Elle a la proximité.
Ah non, moi, personne n'est venu gratter mon dos. J'ai dit, écoutez.
C'est ça.
On a dit, tu t'es chauffé tout seul.
Ah non, je suis chauffé tout seul. J'ai dit, allez, on va. Et donc, je lui demande comme ça et tout. Il me dit, ouais, chien, c'est le contact de la personne qui s'occupe des ressources humaines chez nous. J'envoie un mail et tout. Donc, moi, je suis dans l'attente. Et il me dit, ok, see you next week. Comment ça, j'ai trouvé mon stage très vite. Et en fait, j'avais trouvé mon stage comme ça, sur Snap.
Ça, c'est inédit. Hein.
Ah ouais, j'ai trouvé mon stage sur Snap. Et donc, voilà, je prends mon billet et tout, je fais. C'était un stage de 2 mois. Je savais pas encore, donc je pensais que faire du PR, c'était ce qui m'attirait et tout. Mm-hmm. Comme c'était très proche de la sphère qui me plaisait et tout.
Ouais.
Puis je me suis vite rendu compte que ça m'intéressait pas.
Mm-hmm. Okay.
Parce que, je sais pas, c'était juste pas ma cam, en fait. C'était cool, parce qu'il y avait beaucoup de designers locaux dans leur bureau de presse. Donc c'était des designers émergents, des créateurs qui montaient et tout. Mais c'était pas... je sais pas, c'est pas un...
Donc c'est pas le métier que tu veux faire.
Non, ça m'intéressait pas spécialement. Puis après, ils faisaient beaucoup de choses, ils faisaient du marketing pour pas mal de marques, donc c'était sur des meetings où ils parlaient de stratégie, toutes ces choses-là et tout. C'est pas assez créa pour moi.
Ok.
Genre, tu donnais pas assez ton avis, avis.
Ouais, c'était un client, plus business là. En fait.
T'es un client, c'est lui qui donne l'avis, c'est toi qui écoutes. Ouais. Des fois, tu peux aiguiller un peu. Et donc là, je me dis, bon, mine de rien, ce serait cool qu'ils m'embauchent et tout. Je me dis, comme ça, j'ai un pied... à terre et puis on voit. Mm-hmm. Je rentre en France et tout, je me dis on va me rappeler. On me dit écoute c'est mort, y a pas de budget là, on va te prendre.
Pas possible.
Donc je rentre en France, mais y a plus rien là. Mm. Là on est à zéro là. Mm. Y a plus rien. J'ai laissé tomber le plan du master parce que je pensais qu'on allait m'embaucher, moi j'étais déterminé, je pensais qu'on va m'embaucher et tout. Mm. Et non. Et là je me dis qu'est-ce que je fais, je suis en crise, je me rappelle chez mes parents et tout, et mes parents ils veulent absolument que je reste. Ils sont dans le mood en mode ok bon ça marche pas à l'étranger visiblement, faut que c'est bon tu vas rester à la maison. Moi bon, je me chauffe, j'achète une voiture, je refais ma chambre, j'ai retapissé ma chambre en bleu, vas-y je fais des trucs de ouf. je commence à déchirer des pages de campagne Céline dans les magazines, je vais mettre ça dans des frames Ikea, genre c'est des trucs pour essayer d'être en condition. Ouais. Ça va marcher. C'est pas... ça a pas marché du tout.
Tu voulais te créer ta bulle.
J'ai essayé d'être dans mon bureau de presse dans ma chambre. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'était Ikea. Donc, je commence à me chauffer et tout. Et là, je me dis, j'ai fait des trucs pendant mes 2 mois de stage quand même. Mm. Je commence à faire un portfolio, première fois de ma vie. J'y mets et tout, parce que j'avais fait des trucs de styling, un peu comme on faisait les lookbooks de pas mal de marques.
Ouais.
Donc, je commence à faire un peu mon truc et tout. Et j'envoie. Personne ne me calcule, évidemment. Ça met du temps à prendre, en fait. Et là, je me dis, en vrai, tout le monde regarde ces mails-là. Mais est-ce que les gens, ils checkent leur DM? Et je commence à parler aux gens en DM. Je dis, hey, what's up? Tu sais, quelqu'un qui dit, hey, what's up, sans motif direct. Tu réponds, en vrai, au début, t'es dans l'intrigue. Bien sûr. Tout. Puis je demande...
C'était comment ton Insta? Il y avait quoi? Il y avait une DA ou c'était quoi?
C'était la chambre entre les cadres Céline.
Je vais te donner des keywords.
Ok, vas-y.
C'était prépi... Okay. C'était un petit gamin qui pouvait être fun. Okay. Il avait du potentiel, ouais. Tu vois. Genre, j'ai des petites feintes, tu vois, des petits... Je postais pas mon petit déj, genre, sur mon Insta.
Okay.
Des petites tentatives.
C'était clean, quoi.
C'était clean, ouais.
J'avais une DA.
C'était sur Tumblr à l'époque.
Ah, j'étais sûr que t'allais dire Tumblr. Tous les gens qui viennent ici, de cette génération, ils ont tous été sur Tumblr.
C'est vrai.
C'est un truc de ouf.
Ouais. J'étais prêt. Frank Ocean, il m'a répondu une fois, c'est bon, j'étais prêt. C'est bon, là. J'ai dit, c'est bon, on y va.
On lui passe le salam.
Et du coup... Et du coup, un jour, il y a une, je tombe sur l'insta d'une meuf qui était, c'était une avocate et qui est devenue consultante dans le luxe. Donc elle s'est reconvertie complètement et elle était
que sur Dubaï. Là, tu targetes que des gens qui sont sur Dubaï. Ok.
Et je lui dis, écoute, est-ce que tu recrutes Elle me dit, franchement, pas du tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose et tout. Tu peux passer au bureau. Mais moi, je suis pas à Dubaï, en fait. Je suis à Villefranche-sur-Saône, en fait. Donc là, je serre mes mains bien correctement. Je vais voir mon père. J'ai dit, écoute, en fait, là, les gens, ils ont des plans. Les gens, ils ont des rêves, un petit peu. Donc, c'est soit tu collabores. mes rêves, ils tombent à l'eau, en fait, tu vois. Ça va aller vite. Et il réfléchit comme ça. J'ai dit, donc, tu veux vraiment partir. Il prend quelques jours pour réfléchir, tout ça et tout. Et un jour, il vient, il toque ma chambre. Il dit, écoute, moi, c'est simple. Je te laisse partir. 3 entretiens, je te laisse partir. 3 entretiens et...
Ah ouais, il est carré, ton daron, quand même.
Et je te donne 1 000 balles.
Waouh.
Les 1 000 balles, ils
finissent. Énorme.
Rapatriement.
À Dubaï, en plus, 1 000 balles. Il a dit, je paye le billet, je te donne 1 000 balles. Il a dit, les 1 000 balles, ils finissent. La maison de papa et maman, elle est ouverte, tu rentres. Malheureusement, la porte, elle est ouverte.
C'est ton, bien.
Tu, truc, il a dit, mais on peut tenter le truc, mais ramène les 3 entretiens.
Ouais.
Et moi, j'ai ramené les 3 entretiens, mais je peux ramener des faux, en vrai, là. Qui va me tester, qui va venir vérifier?
J'avoue.
Je les ai quand même trouvés.
Okay.
Je savais qu'ils n'étaient pas trop, ils n'allaient pas mener à des bêtes de trucs et tout. Et donc... je lui dis, c'est bon, j'ai les entretiens, et tout. Il me dit, ok, et tout, tu veux partir quand? Et je me rappelle. Et non, mais moi, j'ai mis du temps parce que j'étais pas très bien, en fait, à ce moment-là. J'étais un petit peu perdu. Je me rends compte, j'avais beaucoup d'idées en tête et beaucoup d'ambitions, mais.
T'avais pas un plan précis, quoi?
J'avais pas de plan, j'avais pas de network, j'avais pas de piste, j'avais pas de thread que je suivais, en fait. Ouais.
C'est la moyenne. Mais là, t'as quoi? T'as 20 ans?
J'avais 21.
Ouais.
C'est super jeune.
Et je suis là et j'ai l'impression que c'est très proche. J'ai mes idées et tout, mais pas du tout. En fait, c'est proche sur Insta là. Il y a pas de. Et donc, je vais en Tunisie pendant 10 jours.
Ouais.
Et je passe beaucoup de temps avec ma grand-mère. Beaucoup de temps. On est archi proche et tout. Et elle voit que je suis païen et tout. Et je lui dis, écoute, t'en penses quoi? Moi, j'ai envie de faire ça et tout. Elle me dit, la vie, c'est court. Tu vas. Là, tu rentres de chez moi, là. Tu prends tes affaires, tu vas. Il n'y a pas à discuter et tout. Donc, je suis rentré de Tunisie, j'étais requinqué et tout. Je me rappelle, 10 janvier 2018, je suis parti de chez moi. Je suis parti et tout, c'était chaud de partir parce qu'on est 2 enfants. C'est le yin et le yang.
Ouais.
Il est parti là.
Ouais.
Donc, c'était compliqué quand même.
C'est toi le plus âgé ou...
Je suis l'aîné, ouais. Ma sœur, elle a 20 ans.
Ok.
Donc, je pars et tout. Et c'était... En plus, je partais à l'aveugle.
Ouais.
J'allais chez un pote. Et
c'est déjà ça.
Ça, c'est déjà.
C'est cool,
ça permet d'être un peu, tu vois.
Sur les 1000 euros, ça t'en save quand même. J'ai presque envie de te dire, ça te save 1000 euros en vrai.
Ça peut te save 3000 euros quand même. Hein. Bon, là, on peut multiplier aussi. Là. Donc, franchement, non, ça save bien et tout. Mais j'arrive, je vais à des entretiens. Je me rappelle, j'étais dans un entretien pour une agence de talent et tout. Et elle me dit, ouais, donc vous faites quoi? Je me creuse, je suis devant elle, la meuf, j'ai de réfléchir et tout. Je dis, je suis styliste.
Mais toi, t'as une audace.
Le blanc.
C'est incroyable.
Elle m'a dit, le portfolio, il est où? Je dis, demain, là, il arrive le portfolio. Je dis, là, on travaille sur les photos en HD, là. Ça arrive, le portfolio.
Oh, c'est énorme, énormissime.
Il n'y a pas de portfolio. Je suis rentré chez mon pote, j'ai dit, oh, on a
comme
une patate,
ça.
Là. Là, on a une patate, il n'y a pas de portfolio. On lui envoie quoi et tout? Il me sort des photos, des trucs qu'il a fait. Il me dit, personne n'a touché, c'est toi qui as stylé et tout. On commence à envoyer des trucs et tout. C'était lui, c'était des photos que lui, il avait fait, tu vois.
Ouais.
Et donc, je mets un truc en place, Et je me souviens, le premier job que je reçois, genre, on m'appelle, le truc. Elle me dit, ouais, c'est pour venir sur un shoot pour assister, pour steamer. Mais vous croyez que j'étais piqué, j'avais jamais stylé de ma vie, j'ai pas voulu y aller. J'ai dit, ah non. J'ai dit, non, par contre, ça va, j'attends. Vous me dites quand il y a un vrai job pour styler. Moi, je suis dans ma délusion, là.
Ah ouais.
Je suis dans ma délusion de ouf.
C'est fake it till you make it.
Ah, mais à 3000%.
En capital letters, le fake. J'y mets bien en majuscule. Et donc, je me souviens un jour, donc j'ai fait les entretiens qui, évidemment, ne mènent à rien.
Ok. Donc, celui avec l'avocate.
Celui avec l'avocate, ah non, d'ailleurs, vraiment non. Petit shout-out positif parce qu'elle m'a introduit à beaucoup de marques. Okay. En fait, elle me dit, j'arrive au bureau, tout ça et tout, et je me souviens, je rentre, c'est un bureau genre... Waouh, le bureau.
Mm-hmm.
Et elle est je me souviens encore, elle est en un look full Balenciaga du lookbook. Et ma tête, elle a bugué, les épaules très larges et tout, comme ça et tout. Donc moi, j'étais dans une planète. Mm. J'ai dit, ah ouais, elle connaît son taf et tout. Et on se pose, elle me dit, en fait, c'est simple, je vais te présenter à une marque. Je crois que c'était Miu Miu à l'époque, un truc comme ça. Elle me dit, tu vas récupérer les samples, tu fais la DA. Moi, je me présente juste au shoot. Le shoot, il carotte, je présente plus à personne.
Ah ouais.
Ouais, elle te donne une chance, mais c'est qui tout double, quoi.
Et de
Fair
là, Bah, c'était mortel parce qu'après, on me présentait à plein de personnes, ça marchait bien, c'était cool et tout. Moi, j'avais accès à du coup, c'était tout frais parce que moi, j'étais encore très naïf, tu vois, j'avais 22 ans. Donc, c'était fun et tout. Et je me rappelle, viens un jour, on a un dîner avec des potes. Et il y a une nana à la table qui bosse pour un géant de la cosmétique.
Okay.
Et donc, elle dit, ouais, et tout, je suis dans le jus, les gars, et tout. Ils me font un styliste et tout, demande un truc. C'est chaud et tout. je suis archi, archi dans le jeu. Là, quand même, j'attends le dessert pour réfléchir parce que j'étais en anxiété là. Je lui dis pas et tout. Et là, tout le dîner, elle râle.
Ouais.
Elle râle de ne pas trouver quelqu'un. Je dis, c'est une campagne pour le ramadan en plus et tout. Parce que, en plus, les campagnes, elles sont très. Enfin, c'est quand même. Ouais, elles sont très adaptées à la
bien
région
sûr,
et tout.
Bien sûr.
Donc là, même si c'est une boîte internationale, il faut que la campagne elle soit appropriée et tout. Et là, je me jette dans le truc. Je me dis, mais moi, ça fait 6 ans que je fais ça, en fait. Depuis tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi
mais
je te
toi,
dis ça.
Bouche. Hey,
attendez, excusez-moi, j'ai 22 ans.
6
ans, ça fait 15 ans, là. Elle a dit, mais non. Je dis, mais ouais, on ne m'a pas demandé mon portfolio. Hein. Du tout, elle a dit, OK, le call time, c'est demain à 10h. J'ai quitté le dîner, là.
Quel culot.
Faut trouver les pièces, là, pour le shoot de demain.
Wow. Ah, OK, c'est pas genre, viens, il y a le rack de fringues et tu vas faire le stylisme.
Non.
C'est faut que tu ramènes les looks.
Faut que tu ramènes les looks.
Wow.
Et moi, il y avait...
Comment ?
Déjà, pour de la beauté, c'est impossible d'avoir des pièces, parce que c'est pas crédité.
Ouais, bien sûr.
Je me rappelle, je vais chez Zara à l'ouverture et je pose 1000 balles à Zara. Et je garde les tickets, parce que j'avais bossé là-bas. On connaît maintenant les taxis du truc, tu vois. Et j'arrive et ça se passe archi bien. Et je me souviens, le photographe, c'est un super bon pote à moi, c'est un Tunisien d'ailleurs. Et je le suivais sur Insta, puisque c'est un mec qui faisait un bête de street style.
Okay.
Et je lui dis, hey, moi je te connais en fait. Je te connais et je vais te confier un truc. J'ai jamais fait ça de ma life. Tu vas m'aider. C'est super simple.
Ah,
et solidarité de tutu là.
Ah, yes.
Ouais. Et
c'est
après, il a aidé. Ça, c'était le premier genre, bah, je crois que j'ai été payé ou j'ai fait le taf, enfin c'est super bien passé du coup.
Ok, et en fait, tu sais, le mot styliste, il est sorti hyper facilement de ta bouche quand tu parlais de ton entretien avec la meuf. Comment ça t'est venu en fait ? Est-ce que tu savais du coup, est-ce que t'as réussi à consolider cette idée et te dire ok, en fait, ce que je veux faire, c'est ça, c'est ce métier-là ? Ou est-ce que vraiment c'est sorti comme ça et ensuite tu t'es découvert cette passion-là ?
Je pense que c'était archi instinctif.
Ouais.
Genre, il y avait un truc en vrai en moi et tout, mais comme le côté design ne m'attirait pas, en fait, quand j'ai commencé à dessiner et quand j'étais un petit peu gamin, je me posais beaucoup de questions et je me suis dit peut-être que c'est ça qui m'appelle. Genre, mon calling, c'est de dessiner. Je me suis posé, j'ai dit, vas-y, gros, si t'étais un génie, t'aurais su là déjà. Là. Tu me saoulais. Genre, c'est pas ça. Donc,
Eddie Sliman ne s'est pas posé la question longtemps.
J'ai dit, Alaya, je suis sûr qu'il ne doutait pas trop là. Il a dû savoir très tôt et tout. Donc, je cherchais un truc qui puisse être. En fait, je voulais absolument dealer avec un produit fini. Un truc qui soit sur cintre prêt. Et on dit. Limite, je me voyais peut-être consulter en post-prod et dire on va rallonger un peu la manche parce que c'est bizarre là, tu vois, mais pas designé.
Toujours la vie, toujours.
Toujours la vie, ah non, la vie, très important. Mais juste, tu sais, j'avais cette espèce de vision, je me rappelle quand je suis gamin, tu sais, de la chaise, le hochement de tête et tout, dire.
Ouais,
tu vois,
ouais.
Genre, on est habitué à tes tics, on est habitué à tes onomatopées, ça veut dire que t'aimes pas si tu tousses deux fois et tout là.
Une vraie diva.
T'es ouf. Et ouais, non, mais j'avoue, c'était instinctif de ouf en vrai. Genre, genre même autour de mes potes et tout, c'était genre naturel de ouf. Genre, on avait pas, j'avais pas cette histoire d'imposture et tout. C'était, c'est notre pote styliste.
Ouais, mais ça, c'est une question intéressante que tu parles d'imposture et tout. T'as l'air d'être très confiant. Genre, je sais pas si c'est quelque chose d'avéré ou si c'est quelque chose que tu, comme dit Nico, fake it till you make it.
Je sais pas, tu nous dis, Nico, c'est quoi les pronostics?
T'as l'air très très sûr de toi.
C'est okay, ça va.
Mais, c'est une bonne qualité. Hein.
Ouais, ouais, c'est une chance en vrai. C'est ce qui t'a permis, je pense, d'accéder au job que t'as eu et à construire ta carrière.
Ouais, le culot, ça aide.
Ouais. Mais est-ce que pour autant, il n'y a pas un petit syndrome de l'imposteur caché au fond?
En fait, au début, je me posais beaucoup la question de. Je sais pas, genre, je me suis posé, j'ai imposture, passion, là, on est où en fait?
Ouais.
Et est-ce que si t'es passionné à la folie, parce que moi, c'est la muerte, et je me posais devant Fashion TV, j'avais 15 piges, et je me faisais des devinettes tout seul. Genre, je regardais pas dans le coin de l'écran, je voulais deviner c'était quel show et tout. J'étais à fond, tous mes potes, tu savais, j'étais à fond.
Un vrai geek de ça.
J'étais un geek de la mode. Genre, c'était. Genre, j'épiais les street style pour reconnaître tout seul les trucs, les pièces.
C'est ouf.
Et je me trouvais chaud de ouf quand j'avais reconnu. Et après, je regardais le crédit et tout. Je me sentais chaud de ouf. et en vrai, ouais, c'est ce truc. Je me suis posé beaucoup la question. Je me dis, mais en vrai, si t'es en kiff de ouf et que t'es passionné, Imposture ou pas imposture là-bas? Non, je suis comme
pas
ça.
Imposture, hein.
Pas du tout.
Non, et puis il y a des gens qui sont à des postes clés qui ont peut-être même pas le savoir que toi t'as dans ton domaine, tu vois. Donc,
On sait jamais, ouais, c'est ça, en vrai, ouais, peut-être. Donc, ouais, non, je pense que vite. Bon, après, c'est, je pense, peut-être une question qui se soulève souvent. Mm-hmm. Genre, où je me dis.
Est-ce que je suis à ma place? Est-ce que.
Ouais, genre, je suis vilain petit canard ou je suis. C'est bien, là, tu vois. Et en fait, non, je pense qu'avec le peu de recul que j'ai, genre, sur les 4 dernières années et tout, il y a quand même eu beaucoup de concessions, de taf. Mais, genre, les premières années à Dubaï, la première année et demie, elle était quand même costaud.
En termes de taf?
Financièrement, elle était costaud.
Ouais. C'est
parce qu'après ton premier. Donc, c'est quoi le parcours après ton premier. Premier job de style?
Officiellement, je suis freelance.
Ok.
Donc là, là,
t'es là, t'es sûr. t'es dans le game. Je suis le freelance styling de Dubaï.
Voilà. Donc là, je mets mon mail en bio et tout. Contactez-moi, s'il vous plaît. Et tout.
Là, tu joues beaucoup avec ton Insta sur le contenu, sur
je
le truc.
Je joue beaucoup
avec
mon Insta. Ouais. Et le truc génial, c'est que je me mets à bosser avec des influenceuses. Comme l'influencing, c'est énorme
là-bas. À Dubaï, ouais.
Et je fais du conseil en image. Donc ça va au-delà du styling, en fait. On se pose, on discute, qu'est-ce qui se passe et tout. Parce que je questionnais beaucoup le fait qu'une influenceuse, elle puisse avoir un styliste. Donc c'est ce qui m'a trained de ouf, en fait. Parce que je venais genre au bureau, à la maison, avec un rack de vêtements. Et je disais, écoute, moi, je vais pas faire les looks, en fait. Sors de la rack, parce que instinctivement, qui t'attire. Mm. Et on discute et on voit et tout. Et ça a été cool pour moi, puisque c'était des filles qui étaient très exposées. Mm-hmm. Je me faisais créditer, évidemment, j'étais payé aussi. Et du coup, ça m'a ramené une audience qui était sympa, parce que c'était des meufs qui avaient 1 million pour une région comme le Middle East. C'est énorme.
Trop bien.
Et c'était, ouais, franchement, c'était cool.
Comment tu fais ta relation aux marques, du coup? Comment est-ce que tu as le crédit, tu vois, envers les marques pour leur sortir des pièces, pour nouer ces relations-là?
En vrai, je pense que la première entrée smooth de ouf, c'était l'influence. Parce que quand t'arrives et que tu dis, ouais, je suis là, je bosse pour quelqu'un qui a 1 million,
on ouvre
les portes.
On donne les pièces très vite et tout. Puis surtout que très très vite, je me suis discipliné de ouf et je me suis dit, genre, j'ai très vite pris conscience de la responsabilité, de c'est pas juste une pièce qu'on me donne là et tout. Faut que ce soit crédité, faut que ce soit fait proprement, faut que les photos elles soient bien, faut que ci, faut que ça, faut que ce soit rendu, faut que ce soit pack. Genre, j'ai récupéré les pièces, je les emballais moi, je les rendais en main propre au bureau de presse pour remercier les RP et tout.
Tu gardes la relation avec la marque ou la boîte de RP hyper clean, hyper
de
tight,
ouf,
genre carré quoi.
De ouf, et j'y allais vraiment en personne, je chillais au showroom, on rigolait et tout. Après, moi j'étais dans du. Pour moi, je trouvais ça déjà ouf que je fasse ça. Donc, c'était hyper important. Je crois que c'était une relation très fragile. Je me dis, demain, on sait jamais, tu vois.
C'est ça.
Donc, je pense que ce qui m'a aidé, c'est vraiment le fait. Tu sais, j'avais un follow-up. Je pense que c'était très, très vite structuré comme manière de bosser. Ça m'a aidé quand même.
Ok.
Beaucoup.
C'est intelligent, ça. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui sont hyper talentueux. Moi, des fois, je le vois. Et puis, ils rendent les trucs en retard, dans des états.
J'avais trop peur. J'ai dit, là, on va serrer ma gorge, là, on va dire, écoutez, non. C'est vrai que pour moi, c'était super important parce que... Puis ça avait beau, et des fois, c'était même des marques qui étaient à un calibre un peu plus petit. Hein. Il y avait de grosses marques, mais il y avait des marques qui étaient à un calibre un peu plus petit et je trouvais ça encore plus important, finalement.
Tu l'as traité avec
le même respect.
Vraiment, genre... Non, je prenais le temps d'échanger, je prenais le temps de discuter. Genre, je trouvais que c'était archi important, puis... À ce moment-là, moi, je suis dans un mood où j'ai 22 ans. Je me dis, c'est un truc de ouf en vrai, là, ce qui se passe et tout. Genre, là, on est passé de ma tête
à la réalité.
Là, on est sur le plan, là. Sur le plan, là.
Mais je pense que quand t'as l'impression que tes rêves étaient aussi inaccessibles et que tu finis par y arriver, pour toi, il n'y a pas de tâche ingrate parce que tout est tellement ouf qu'en fait, tu te dis pas. Paquer un truc et aller le rendre, c'est un truc relou. Parce que tu te dis, non, j'ai les habits avec moi, on me les a prêtés, je vais rencontrer le designer, je vais rencontrer les équipes, t'es trop content en fait.
Ah non, je trouvais ça mortel.
Bien sûr.
D'ailleurs, j'ai tellement trouvé ça mortel et j'avais jamais, même sur des grosses prods et tout, des gros shoots, j'avais jamais pris d'assistant styliste et tout. J'estimais les pièces.
Du coup, là, tu estimais.
Là, j'estimais. Alors là, j'ai dit, là, c'est mon nom, là. Tu vois, on va estimer, là. Donc, non, j'estimais et tout. Genre, je faisais vraiment le taf. Enfin, vraiment, comme tu dis, il n'y avait pas de sous-tâche.
Ouais.
Au contraire, je pense que c'était gratifiant de ouf pour moi de faire le truc de A à Z. J'étais sur les rotules à la fin, des fois sur des gros trucs. Mais c'était excitant de ouf, en vrai. Ouais, c'était archi excitant.
Et puis j'imagine que du coup, tu n'avais pas envie de rentrer à Lyon, donc tu faisais tout pour continuer l'aventure, quoi.
Surtout qu'à un moment, là, les 1 000 euros, là, commencent à arriver à la fin, là. Donc il faut meubler. Et je pense que ce qui était compliqué, c'est que pour moi, c'était vraiment nouveau comme univers, le freelance. Donc tu sais, c'est toi qui fais tes factures, c'est toi qui chase tes paiements, ouais. C'est toi qui... T'es tout, en fait.
C'est une entreprise à toi tout seul.
Ouais. J'avais jamais fait ça de ma vie. Donc je découvrais
des choses.
Des factures, des trucs un peu... Donc ouais, c'était beaucoup de pression quand même. Et sachant qu'en plus, en même temps... t'as des hautes saisons, des basses saisons, même ça aussi j'apprends. Je capte pas que tu peux bosser pendant 6 mois et que pendant 6 mois ça peut être
compliqué.
C'est compliqué.
Ouais.
J'étais en coloc, on était 8. C'est bon.
Ah oui, c'est la grosse coloc.
Pendant un an et demi, j'étais en coloc. Je me souviens, c'était une coloc sur la Palme à Dubaï. C'était une coloc sur une île artificielle. C'était un peu glam, tu vois. Mais c'était une coloc à 8. On me disait, hey, where do you live? In the Palm.
C'était pas aussi glamour.
Je me souviens, ma chambre, elle était toute petite. Des fois, je rentrais avec des samples presse et j'avais peur de les laisser dans la voiture. Parce que des fois, c'était du stock, en fait. C'était même pas des samples. Et ma chambre, elle était archi petite. Archi petite. Genre, tellement c'était petit, j'avais même pas de place, des fois, pour mettre les samples. Ce que je faisais, des fois, donc j'allongeais la sable sur mon lit. Je faisais mon lit par-dessus. Le matin, je me levais, je paquais parce qu'il n'y avait pas de place.
Oh là là.
Et j'avais trop peur, j'avais un chat dans l'appart. Et tout. Je me suis dit, je vais avoir une surprise un jour avec le chat. Et tout. Ouais, bah ouais. J'avais trop peur, j'avais trop peur.
Ah oh, putain.
Non, c'est vraiment galère au début. Premier un an et demi, galère.
Ouais, mais donc tu fais ces petits jobs avec les influenceuses, tu crées tes relations comme ça. Ensuite, c'est quoi le premier gros job? Enfin, pas que ce soit des petits jobs, ça, mais tu
genre
vois.
Vraiment un truc où je me suis dit, j'ai commencé à bosser. J'étais en Tunisie et j'ai un pote à moi qui s'appelle Prod. Il me dit, écoute, j'ai un job pour toi et tout, c'est une meuf qui fait des pompes et tout, viens s'il te plaît. J'ai dit, je peux pas venir et tout, je peux pas, je suis en Tunisie, je suis en famille. Il me dit, réfléchis et tout, et tout. Et je lui dis, c'est quoi, envoie l'insta de la meuf là vite fait, s'il te plaît. Il envoie l'insta, on est en quelle année? 2019, je crois. C'est Amina m'a dit.
Je savais que t'allais dire ça.
Je connaissais pas du tout. Je lui dis, le monde connaissait pas encore, on n'était pas sur la nouvelle Manolo là, on savait pas encore. Et du coup, je lui dis non, désolé et tout, je suis pas, c'est mort, je peux pas rentrer pour ça et tout, t'es malade ou quoi? Et il me dit ok, réfléchis. Le lendemain matin, je me réveille, je me dis, je suis grave rentré. Je sais pas pourquoi, je me dis, là, faut aller et tout, faut rentrer. Et donc, là, j'ai 24 heures devant moi, donc j'arrive à Dubaï genre à 23h, le shoot il est à 6h du mat le lendemain.
Mais toi t'aimes trop te mettre dans des galères comme ça.
Il n'y avait pas de Saint-Paul pièce, il n'y avait pas de pièce, il n'y avait pas de truc.
Mais là il n'y a pas placard. De Zara non plus.
Non, je suis arrivé avec mon placard. Placard, j'ai mis 4 blazers sur scène, j'ai dit voilà, c'est ça les looks, on va mettre ça là.
Waouh.
Mais encore, moi j'ai pas conscience du tout de la grandeur du truc, je sais pas et tout. Et donc on me dit ouais, il faut que tu passes à l'hôtel et toi à la suite pour un fitting et tout. Après j'avais souvent des pièces qui restaient à la maison, des samples que je gardais longtemps et tout, qui de marque un peu moins grosse si jamais j'avais une emergency et tout, mais ça s'est fait sur à l'aveugle, vraiment à l'aveugle. Et c'est là où je me suis dit ah ouais, tout mortel, parce que moi j'avais absolument pas conscience que c'était une marque qui allait décoller et tout et tout. Et je pense que ça a été une des premières expériences où je me suis dit ah ouais, c'est trop bien et tout,
c'est ouf.
Je m'étais éclaté de ouf, c'était le jus, je suis rentré, c'était mes affaires,
c'est l'excitation du truc qui...
ouais, vraiment. Et en plus, bosser avec un pote, en plus c'est la première fois que je bossais avec un pote, et du coup l'échange il était trop bien. On échangeait beaucoup, il y avait une honnêteté de ouf entre nous qui fait que je me sentais pas dans le jus, je l'aurais pas fait avec quelqu'un d'autre, avec un timing aussi tight et tout. Et moi ça m'a vraiment, j'avais trop kiffé.
Ok. Et de là, comment les choses s'enchaînent du coup
après j'ai bossé avec là j'ai commencé à bosser avec des marques un petit peu plus grosses. On a Level Shoes à Dubaï qui est c'est un des magasins de chaussures le plus grand du monde, mais ils shootent beaucoup de campagnes. Donc ils m'avaient emmené en Tunisie d'ailleurs pour shooter une de leurs campagnes. Et j'ai dit bah oui, bien sûr, on va. Il y avait après j'ai commencé à bosser avec Bulgari, j'ai bossé avec Prada aussi. Il y avait eu des prods un peu plus gros, j'ai bossé avec Nike et tout. Et c'était fun, et franchement j'étais hyper content parce que on est très peu de rebeux, même là-bas pourtant, à faire le taf. Et je sais pas, je me sentais à ma place dans le truc, tu vois. Je disais ah ouais, c'est bien, c'est cool, mais je pense que j'ai mis genre avec le recul et tout, là, je capte que c'était fun, mais sur le coup, je prenais les trucs comme ça. Mais c'était du freelance. okay. freelance. Et à un moment, on me hire pour un job en freelance pour Farfetch. Mm-hmm. J'en fais un, puis j'en fais un deuxième. Donc c'était deux campagnes Ramadan aussi. Mm. Et là, on me dit, ouais, et tout, on recrute, tout ça, tout ça. Et là, je me dis...
Comment tu le sens, ça, ouais.
Freelance et tout, je savais pas trop, tu vois. Là, je me dis que c'est vraiment un engagement, genre, moi, je vais rester ici. Je vais reconstruire ma vie à Dubaï.
Ouais.
Et puis finalement, j'ai discuté un peu avec mon papa et tout. Je lui ai dit, tu penses quoi ? On tapait des débats de une demi-heure et tout.
C'est trop bien, ça.
On a consulté, là.
Ouais.
Il m'a dit, je sais pas, tu repèses le pour et le contre, nan, nan, et tout. Et on échange vraiment, vraiment beaucoup. Surtout ouais. depuis que je suis parti, on échange vraiment, vraiment beaucoup. Et voilà, après, j'ai dit, allez, go.
Ouais, pour la stabilité, pour le nom, pour j'imagine ouais. un tas
d'expérience.
De...
Puis c'était ma toute première expérience professionnelle dans un truc legit, quoi, un vrai nom, quoi, pour le coup. Et je me suis dit, ok, vas-y, faut y aller en vrai. Là.
Ah, c'est une grosse structure en plus, Farfetch.
Ouais, vraiment, c'est un bolide.
Ouais.
Donc je me suis dit, en fait, je m'imaginais à la fac, tu sais, quand j'étais en train d'arpenter les sols sur Farfetch, là. C'était encore trop rush.
Ouais.
J'ai allé, on dit oui là. On
bien
dit oui,
sûr.
Tu vois.
T'as ce souvenir là, bien sûr, c'est hyper fort.
Je me souviens et tout. Je regardais, enfin, je sais pas, il y avait cette espèce de le choper luxe online, c'était un prestige encore plus gros que de choper luxe en magasin, parce que t'es très à l'aise là pour pas voir la pièce,
pour
pas piter la pièce, tu vois.
De ouf, pour pas
et
aller
je sais pas,
en boutique,
ça me fascinait. Ouais. Je me disais, ah ouais, en vrai, faut que ce soit vraiment un lifestyle pour pouvoir consommer comme ça du digital en vrai. Tu consommes de l'image. Et après, ça arrive chez toi et bim, ça fit pas, on rend pas et tous les trucs comme ça. Donc, ça a été une. Franchement, c'était cool. C'était cool.
C'est une annonce pour faire quel job, du coup, à Farfetch, quand ils te recrutent ? Quand tu vas à l'entretien, je veux dire.
Du coup, ils ont un département qui s'appelle Private Client.
Okay.
Donc, c'est pour les clients les plus VIP de la plateforme. Et donc, on s'occupe d'eux. C'est du personal shopping, c'est de la conciergerie aussi.
Okay.
Donc, c'est très différent de ce que je fais parce que tout de suite, tu te mets à deal avec des gens et non des marques.
Mm-hmm.
Et c'est hyper, hyper intéressant. Hyper intéressant parce que t'es vraiment... t'es très, très proche du coup, t'es le...
Consumateur.
Tu peux pas, ouais, vraiment, vraiment. Mm-hmm. C'est pas la worst, on est dans la mode, on discute. Ah ouais, non, mais ça, c'est super cool. Non, non, là, c'est en mode ça, c'est qui,
c'est
qui achète,
vie.
Qui met. Qui ouais. achète, qui met. Et du coup, ça m'a permis de développer un œil archi-critique sur ce qui est produit et ce qui sort.
Ouais.
Parce que maintenant, je sais...
Ah, parce ouais. que genre, t'avais pas l'œil critique avant ?
Pas suffisamment, tu vois. Genre, c'était mon avis. Moi, c'est dans la
verte.
Là, t'as le retour des clients finaux,
ouais.
quoi.
Genre, puis c'est une région qui est très particulière avec un profil conso qui est particulier parce que modestie, parce qu'il y a des codes culturels. C'est vraiment différent. Donc,
il y a un gros pouvoir d'achat aussi de l'autre côté.
C'est un gros marché aussi. Donc, je me dis, et tout. Et en vrai, j'ai vraiment beaucoup appris parce que en majorité, je parle avec beaucoup de femmes, mes clientes, et c'est vrai que. La relation qui s'instaure, elle devient fun parce que j'aime ça, j'aime pas ça, pourquoi j'aime pas ça. Ça me permet moi aussi d'avoir une perspective différente parce que du coup, je suis un homme. Donc quand j'échange avec... Enfin, je trouvais que ça a été la partie du métier qui manquait beaucoup déjà pour avoir ne serait-ce que le rapport de la rue, en fait. Enfin, the people en vrai. Genre, qu'est-ce que les gens ils kiffent, que les gens ils aiment pas plutôt que... entre stylistes ou
ouais
genre c'était important de ouf pour moi.
Ok, et ce poste il a évolué ou tu comment?
Non, du coup là ça fait 3 ans que je suis sur ce poste là.
Ouais.
Quand on shoot des campagnes localement généralement je suis sur le projet aussi et tout, donc je passe avec l'équipe pour tout ce qui est un peu casting avec mon boss, nos talents locaux et tout. Des fois je suis sur le shoot, je style, surtout quand c'est des trucs un peu comme Ramadan où est-ce que vraiment il faut. Mais il y a limite un peu du socio-culturel, c'est archi important d'avoir la bonne
codes.
Personne. Ouais, y a plein de codes et tout. Donc on échange beaucoup entre nous, mais ouais non, ça fait 3 ans maintenant déjà.
Trop bien.
Ouais.
Et la vie à Dubaï, tu kiffes toujours autant, c'est
ouais,
tu
vraiment.
Te sens chez toi.
Ouais.
T'as pas le petit truc de j'ai envie de rentrer en France ou... Tu rentres en France un peu de temps en temps quand même.
Souvent.
Bah, là t'es là. Mais
bon. Ouais, non, non, souvent. Je pense que tous les 2-3 mois, je suis là.
Ouais, quand
là.
Même.
Ouais. Si c'est pas une semaine, c'est 2. Je vais souvent en Tunisie aussi.
Mm-hmm. Du coup, c'est proche avec Dubaï. Enfin, c'est plus rapide que
en vrai,
la France.
Ouais. Après, non, je crois que c'est un peu près pareil. Mais mes parents, généralement, ils sont en Tunisie. Enfin, ils font un mois ici, un mois là-bas.
Mm-hmm.
Donc, c'est cool. Ouais, ouais, non.
Trop
je suis encore connecté ici.
Cool.
Même si j'ai fui, genre quand j'ai déménagé, personne a su que j'avais déménagé. Genre, je suis parti.
Comme
j'ai
ça.
Comme si je partais
c'était
en
rapide
vacances.
En même temps.
Ouais, j'ai fait comme si je partais en vacances.
Il
m'a dit ouais les vacances et tout c'est comment et tout j'habite là-bas en fait. Ouais, c'était en scred, tu sais. Okay. Vas-y, on va faire les choses tout doucement. Okay. Et tout, ouais.
Par rapport à ce que tu as dit, j'ai deux questions. La première, ça concerne un petit peu ton contexte, ton cadre familial. J'ai l'impression que tu as une famille qui t'a vachement soutenue. Mmh. Et ça, je pense que ça fait beaucoup la différence sur des parcours de gens comme nous, donc enfants de seconde, troisième génération d'immigrés, mmh. mais avec une famille qui est quand même présente et encourageante. Mmh. Est-ce que tu as envie d'en parler un petit peu? Je sais pas si c'est trop personnel.
Ah ouais, non,
ou quoi.
Non, de ouf. Ma famille, elle s'est toujours montrée très encourageante. Après, c'est vrai qu'au tout début, je pense qu'ils avaient du mal à comprendre exactement ce que je faisais.
Mmh. Quand les miens, ils ont toujours pas compris. Je te rassure.
Okay. C'est tendu.
J'ai 40 ans.
C'est tendu. Donc ouais. Les premiers shoots, ils sont sortis et ils ont pas compris. Mon père, il me dit...
Tu fais quoi?
T'es pas le photographe, là. Qu'est-ce que tu fais, en fait, sur le truc et tout. Donc, j'ai commencé à expliquer un petit peu ce que je faisais. Et c'est vrai que très vite, ils se sont montrés encourageants parce que... ça se voyait que mes parents me suivent sur Insta, ils ont vu que c'était cool et tout, on rigolait bien et tout, ouais, de ouf. Mais ça répond à toutes mes stories là.
Arrête.
C'est énorme.
Ils sont hyper modernes,
ma mère, elle me dit, tu réponds pas? Bah, je dis, bah, mais. Elle me dit, genre, là, il y a pas longtemps, genre, j'ai passé la barre des 10 000. Elle m'a dit, c'est bon, depuis que t'as 10 000, tu vois plus les messages? J'ai dit, non, je vois et tout, mais juste, j'ai pas vu, il y a 3 heures entre toi et moi, genre, laisse-moi le temps, c'est le décalage horaire et tout.
Ouais.
Et donc. Depuis que je suis parti de chez moi, ma relation avec mes parents, elle a beaucoup évolué.
Mm.
Vraiment, vraiment, de manière franchement formidable, surtout avec mon papa. On parle vraiment, vraiment beaucoup. Bon, bien qu'on parle évidemment quand j'étais à la maison, mais quand on est sous le même toit, c'est pas pareil.
C'est pas les mêmes discussions.
Mm. Et maintenant, on a des relations de pote à pote.
Ouais.
Genre, je peux lui envoyer un truc que je porte, je dis ça fait chelou ou pas. Il dit, moi je crains un petit peu et tout.
Arrête. Ouais. Ils aiment bien la mettre tes parents.
Hein? Attends, moi je
t'en raconte. Ils aiment la mettre tes parents.
Je rentre en full. Je vais chez Prada pour les fêtes là cet été. Pas pour les fêtes, mais bon, bref. Je me sors un full outfit nylon, je suis en kiff et tout. J'arrive chez moi. Mon père me dit, c'est quoi cette tenue d'électricien?
Hey, moi je rentre chez moi, je rentre en Tunisie. J'avais acheté une paire de mules et tout avec une grosse chaîne. Des JW.
Ouais.
Ma mère, elle m'a dit, ça s'enlève la chaîne, mais c'est pour... J'ai dit, ça fait partie de la chaussure, c'est la chaussure.
Non, bien
elle
sûr.
A dit, moi, j'aime pas. Des petits trucs comme ça. Donc, ouais, non, franchement, ils sont très, très encourageants. Et ça me surprend toujours d'échanger avec mon père sur des sujets comme ça.
Mais quand on part de la maison, enfin, moi, je vois de mon expérience personnelle, après, t'as une relation d'adulte à adulte, en fait.
C'est ça.
Et tu vois, en fait, moi, j'ai eu beaucoup... Mon père, il travaillait beaucoup, il est horticulteur, donc voilà, tu vois, genre, on n'avait pas trop de proximité jusqu'à ce que je parte de la maison. Et après, quand je suis devenu un homme, que j'ai dû m'assumer, là, on avait d'autres relations, tu vois. Genre, ah ouais, mais en fait, c'est dur. C'est dur d'être le soutien de la famille, de trucs, genre la réalité de la vie, tu vois. Tes discussions, elles sont plus sur le même niveau.
Bah en fait, quand tu pars, tu les humanises beaucoup.
Ouais, de ouf.
Tu vois, tu passes de... papa, maman, tu vois deux êtres humains qui sont travaillent dur et qui sont...
Les galères de la vraie vie.
La vie en vrai. Mmh. Et moi, ça m'a vraiment beaucoup touché parce que du coup, je me suis rendu compte que mon père, il avait encore plus d'ambition pour moi que je n'en ai pour moi.
Ouais, c'est beau.
C'est clair.
Genre, je sais qu'à chaque fois que je pars de chez moi, à chaque fois où mon père m'emmène à l'aéroport, il me dit, hey, tu prends ta place à la table, tu t'assois là, tu récupères ce qu'il faut récupérer.
Et c'est ouf.
Ah, j'adore.
Il me dit, il y a pas de, je suis pas à l'aise, tu t'assois, tu prends. Et tout le temps, il me dit ça tout le temps.
Donc, j'ai l'impression d'être un boxeur sur le ring et qu'il chauffe.
Il dit, hey, tu vas, tu récupères là, ramène la médaille là.
C'est bien.
Et c'est mortel parce qu'en vrai, quand j'y pense et tout, même une industrie comme la mode et tout, c'est déjà pour des gens de ma génération, c'est très flou. Donc pour mon papa, je me dis, mais ça, tu vois, c'est que tu vas faire ta recherche un peu et tout, des fois.
C'est clair.
Je fais des reviews de fashion show et tout sur mon Insta.
Ouais,
et
j'ai
fait
en anglais.
Il traduit des paragraphes, mon papa. Des fois, je lui envoie la trad d'un truc, je dis ça a l'air intéressant et tout, j'envoie la trad et tout, tu vois. Donc, archi investi. Trop bien.
Ouais. Ok. Et ma deuxième question, c'était une question un peu plus administrative.
Allons-y.
Quand tu te lances en freelance à Dubaï, tu te répertories où en France, à Dubaï, comment ça se passe? Vraiment des conseils pratiques.
alors moi, quand je suis arrivé, ils étaient aux prémices de mettre en place des règles.
Ouais.
Surtout sur s'il était paperasse, les freelanceurs, tout ça. Parce que comme le marché, il est très, très, très...
nouveau.
Ouais, il est nouveau et tout. Du coup, il n'y avait pas encore vraiment de
législation,
voilà, de trucs. Et maintenant, c'est vrai qu'il faut une freelance license, il te faut un document qui atteste que tu es une entreprise et que tu es à ton compte et que tu es entrepreneur et tout.
Ouais.
Maintenant, même quand tu bosses pour une marque et tout, on va te demander ton numéro de license, nanana. Quand moi je suis arrivé, c'était pas aussi strict.
Okay.
Donc tu pouvais bosser, être payé en cash, tout ça, c'était plus simple.
Ah,
maintenant
bien.
C'est quand même
structuré.
Ouais,
structuré.
Parce qu'ils ont dû un peu mettre des règles en place, ne serait-ce que pour beaucoup d'influenceurs qui au final ils ont un statut d'auto-entrepreneur. Mm-hmm. En vrai. Donc, mais quand je suis arrivé, là, les questions elles se sont pas posées parce que. Après, moi j'étais en survie en vrai là, les papiers.
Ouais, ouais,
ça rentrait,
pas
ça, ça sortait quoi l'argent,
ouais, c'était.
C'était
donc le truc c'est que par contre, quand je suis arrivé, il faut. Parce que avec, moi j'ai avec un passeport français, donc t'as 3 mois de visa, mm-hmm. mais une fois que tu passes tes 3 mois, il te faut un sponsor.
Ouais.
Soit un sponsor, soit si tu te fais embaucher par une entreprise, du coup on va te sponsoriser. Et donc là commence la quête bien longue de trouver un sponsor parce que je suis solo.
Ouais, bah ouais.
Ou t'as l'autre option qui est d'ouvrir une entreprise
avec un local.
Ou tu peux l'ouvrir à ton nom, mais les prix c'est pas les mêmes. Mais moi j'étais freelance stylist, enfin j'avais pas d'ouvrir un truc, j'avais pas de bureau, y'avait rien, tu vois.
Ouais, bien sûr.
Donc je me souviens, je rencontre un gars qui est devenu un super pote à moi et tout, qui est local, c'est un art collector et tout ça. Le courant est pas super bien, on rigole de ouf et tout. Et donc là, j'arrive sur la dernière semaine de mon visa. Mmh. Et j'ai dit, faut trouver des plans là. Et je lui demande s'il a le temps pour un café et tout. Et j'ai dit, vas-y, je vais me lancer, en vrai, je vais raconter mon histoire. Mmh. Je lui raconte, je dis, voilà, le plan c'est ça. Dans une semaine, le visa il expire. Et en fait, quand ton visa il expire, on te vire pas. Mais t'as une amende à la journée. Chaque journée excédée, c'est une amende. C'est genre 40 euros la journée et tout, mais ça monte vite.
Bah, bien sûr. Bien.
Le premier mois, c'est 40 euros, après, ça double. Enfin, faut pas rester trop longtemps. Là.
Ouais.
Donc, et on te laisse pas sortir si tu payes pas l'amende.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et je lui dis, voilà, le plan, c'est ça. Moi, je suis venu ici avec un rêve et tout. J'ai vraiment envie de faire ce que je suis venu faire ici. Et voilà, pour moi, c'était un big deal de ouf. Je voulais absolument pas. C'était même pas la peur de décevoir. C'était vraiment un combat perso. Mmh. Genre, je savais que mes parents, ils allaient m'accueillir à bras ouverts. Ma maman, elle était hyper supportive et tout. Mais pour moi, c'était archi important de pas rentrer. Mmh. Et il me dit, écoute, moi, je te fais confiance et tout. Chaud. Allez,
je te sponsor.
Comme
ouais.
ça.
Wow.
Ouais, ouais. Et du coup, il m'a sponsorisé pendant un an. Et ouais, ça a été. Magic Steak, j'ai dit
trop
reste.
Ouais. Super.
Tout sur l'humain, toute ton histoire en tout cas, c'est que des rencontres.
C'est les gens,
c'est que.
Ouais, mais important. Après t'as une personnalité qui est quand même hyper attachante et drôle.
Je gagne, tout glousse.
Ouais, je glousse. Non, trop bien. Et ensuite, du coup, Farfetch, c'est quoi comme type de contrat? Vraiment, je suis dans les questions pratiques. T'as besoin d'un visa à travail?
Non,
comment
non, on
ça
te fait
passe?
Ton visa.
Ils te le font.
On te recrute, bien sûr. Ouais. On te fait ton visa et après t'es en CDI.
Ok.
CDI, toi, c'est très simple.
Ok.
Et t'as pas de souci de ton visa, on s'occupe de tout, tu t'occupes de rien du tout. Vraiment,
okay,
ça devient très smooth et tout. Et puis, ouais.
Ok, trop bien. Tu faisais une petite mention rapide à tes critiques sur Instagram.
Oui.
J'aimerais bien que tu nous en parles un petit peu. Moi, j'ai découvert ça il y a pas très longtemps, du coup, mais j'adore. Je trouve que t'as un œil hyper averti, hyper éduqué sur la mode. J'aimerais bien que tu nous dises déjà, un, comment t'as fait cette éducation-là. Deux, comment t'es venue l'idée de faire ces critiques-là? Et trois, c'est quoi l'ambition pour la suite?
Alors, quand je suis...
C'est beau, hein.
Il y a beaucoup, là. Hein.
Ah, on sent le parcours scolaire, là.
On sent l'allemand.
La rigidité.
Ça structure un peu. En fait, au début, quand je commence à bosser avec des influenceuses et tout, je sais pas si ça fait partie du syndrome de l'imposture et tout, mais je me dis que j'ai du mal à trouver ça complètement crédible. Mm-hmm. Encore une fois, parce que censé influencer, qu'est-ce que je fais dans la sauce, tout ça. Donc je commence à utiliser mon Instagram, ça c'est en 2018-2019, pour faire des reviews de red carpet. Donc je review les Grammys, les Oscars et tout et tout. Et c'était marrant de ouf.
Mais quoi, en vidéo genre?
Non, non, en story. Genre j'écrivais sur les photos et tout.
Okay.
C'était marrant de ouf, mais avec un petit peu de recul, je pense que c'était un petit peu méchant.
Okay.
Tu vois, genre c'était...
C'est la culture internet.
Ouais,
un peu
c'est la culture
après,
internet,
hein.
Mais là on est devenu averti, on est aware de la mental health des gens. Il n'y a plus
à taper,
genre,
sur, le
à taper sur quelqu'un parce que sa robe elle est chum. Peut-être que ça... Il y a quelqu'un derrière en fait, tu vois.
Bien
à
sûr,
l'époque, il y a un recul énorme et tout. Et évidemment, tout le monde rigole, on se tord de rire, tout ça. Mais à la fin, je me rends compte qu'après avoir posté ces reviews un peu de Red Carpet, je suis pas dans le meilleur mood en fait. Genre, on te voit comme un mauvais, les gens rigolent, mais c'est sur ton expense à toi et tout. Donc je me dis, no way. Puis là, je commence à construire des vraies relations avec des marques.
Tu peux pas brûler.
Il y a un moyen, il faut être politiquement correct. Voilà. Mm. Je peux pas, je suis pas moi.
En toute impunité, dire
non,
ça,
non.
C'est
je peux
moche.
Pas barrer le Rob Vuitton comme ça. Ouais. C'est non.
Bien sûr.
Donc j'arrête pendant un moment, mais après je deviens occupé par le taf, Farfetch, les shoots, tout ça, donc c'est vrai que c'est un truc que je mets de côté, et bim, confinement, le confinement il arrive et les shows ils passent en digital.
C'est donc
et
ça.
Là je commence à taper je commence à écrire un article sur mon télé, sur mon ordi. J'ai fait du slam aussi, donc ça m'aide pour écrire. C'est un détail aussi. Je suis pas prêt, j'ai fait du slam, ne me demandez pas. Et donc, j'ouvre un document Word et je commence à écrire un article que je veux pitcher à BOF. Okay. L'article n'a jamais été truqué, mais je veux pitcher l'article.
Non, mais toi, t'es sans limite.
Ah, non, mais
j'écris mon premier article, je le pitch à
y a pas la
Business
là.
Of Fashion.
Non, Business of Fashion. Et le headliner de l'article, c'est comme on est tous sur nos canapés, ne sommes-nous tous pas front row? En vrai, on est tous front, on est tous assis à la même enseigne. Là. Je commence à écrire et tout, comme quoi en vrai, il n'y a plus de hiérarchie et tout. On est tous sur nos canapes. Là. T'es chez toi, à truc. Si au max, tu regardes dans HD, mais en vrai, on regarde tous la même chose. Ou t'as une connexion internet un peu lente, mais on regarde tous la même chose. Et là, je me rends compte que toutes les personnes qui postent du contenu sur la Fashion Week, tout ça, c'est exactement le même type de contenu, parce que c'est du contenu digital.
Ah, bien sûr.
Donc qui est pas invité là? Moi aussi je suis invité en fait. Je suis invité comme vous de la maison. Donc je commence à review des trucs que je vois sur Insta, mais le contenu c'est exactement le même. Ils sont pas plus proches que moi, on regarde tous de la maison. Donc je commence à écrire. Et
mais du coup là ton point de vue est beaucoup plus intéressant.
Ouais.
Parce qu'il y en a, leur point de vue est pas super intéressant, mais comme ils sont front row et qu'ils ont accès à un contenu que les autres n'ont pas, ça leur donne de la légitimité.
Voilà.
Légitimité, pardon.
De ouf.
Ouais.
Donc je commence à écrire tout ça et... Et je sais pas, les retours ils sont mortels. Mmh. Et en plus, je review même pas des shows à ce moment-là, puisque on est peak Covid, c'était des lookbooks. Mmh. Et c'est en vrai, c'est statique un lookbook, c'est très compliqué de décrire.
Il faut voir le produit, tout ça.
Ouais, même les photos sur Vogue, l'application Vogue, elles sont pixelisées des fois. Et c'est super bien reçu, archi bien reçu. Et Dieu sait que j'écris vraiment des pamphlets. Et comme les gens ils sont chez Elise, ils disent waouh et tout, nan. Et petit à petit, en fait, j'essayais d'avoir un ton qui soit éducatif, genre t'apprends, ça c'est éducatif, ouais. T'apprends, mais tu tapes un peu une barre, mais sans tomber dans la méchanceté de ça c'est claqué par contre et tout. Et
Du coup, tu viens faire un peu le journaliste.
Je viens faire un peu le journaliste.
Bah, donc c'est que tu te dis que t'as quand même la légitimité. Je dis ça pour revenir à ce qu'on disait au début.
Un petit peu. Je me dis, attends, ce que je fais et tout, là, j'écris. En fait, non, au début, même si c'est le ton, il est crédible et tout, puis je me rends compte que je sais écrire en anglais. Moi, j'ai fait des études de langue, évidemment, mais je me rends compte que mon anglais, il est très articulé et très élaboré. Et c'est une chose qui me surprend, mais je me rends compte que c'est consommable, dans le sens où les gens, ils le lisent vraiment. C'est. Pourtant, je fais des formulations de phrases un petit peu longues et tout. Et je me dis, au début, je me vois comme les rageux dans les comments sur Facebook. Tu vois, je me vois comme un troll au début.
Okay.
Je dis là, je suis dans la backroom, je suis en train de brailler. Et là, ils vont dire le bruit au fond, s'il vous plaît. On arrête de crier. Il y a des gens qui bossent ici. Tu vois. Et très vite, non, parce que je vois qu'il y a des gens qui consomment le contenu qui étaient pour moi genre des gros leaders d'opinion ou c'est des gens que moi-même je lisais et tout. Je me dis ok, il y a peut-être un truc. Et donc petit à petit j'ai commencé à me focus vraiment sur le truc, donc je faisais des stories tout ça, et à côté de mes stories je faisais un espèce de visuel un peu fun que je mettais sur mon feed, et je faisais ça genre sur une application sur mon iPhone et tout, et un truc un peu loufoque, je rajoutais des logos, je rajoutais des trucs et tout. Et je me disais, le mood, c'est qu'il faut que ce visu soit imprimable sur un t-shirt à chaque fois que je faisais mon visu. Et comme je m'étais fait grave un réseau de bons potes et tout, c'était un truc qui était partageable en story. Genre, c'était fun. Puis les gens, ils voyaient, je sais pas, Jacques Mus reviewed by Ossa, ils allaient cliquer, c'est qui Ossa et qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi il raconte quelque chose, tu vois. Et en vrai, ouais, maintenant, je pense que c'est. Une nouvelle area de développement potentiel.
C'est un truc que tu veux explorer, ouais.
Beaucoup. Beaucoup, parce que je me souviens que plus jeune, quand je pense à la télé, par exemple, et tout, moi, je consommais des trucs genre la mode, je sais pas si c'est sur Paris Première, je crois.
Ouais.
Il n'y avait pas de rebeux qui parlaient de mode. On avait des rebeux qui parlaient de musique, on avait des rebeux qui parlaient de cuisine sur le petit journal ou dans le journal. Il y avait des trucs comme ça, et jamais on dirait que c'était un tabou. Énorme, genre en mode vous touchez à tout, mais ça vous touchez pas. Et je sais pas, ça m'a piqué.
Okay.
Je me disais, il y a personne en vrai là où je me dis, ah ouais, j'aime bien son point de vue et tout, et je me reconnaissais dans personne en vrai. Et à un moment donné, je me posais, je me dis, attends, mais en vrai, c'est une dinguerie et tout, je m'appelle Oussama, j'ai une casquette sur la tête toute la journée là. Tu peux parler de mode en fait, c'est un bête de truc. Je commence à me pencher sur le côté image du truc, parce que je me dis, comment. Puis j'ai du mal à contextualiser ma présence dans un contexte social à Dubaï, parce que. Je suis pas. On est tous des robeux, en vrai, là-bas. Et je sais pas, comme en France où je suis politisé, contextualisé par défaut parce que je suis maghrébin, issu d'immigration. Donc il y a une espèce de double discours qui se crée. Je me dis, en vrai, c'est mortel de parler de mode. C'est peut-être même plus mortel de parler de mode chez moi, posé sur mon canapé à l'aise, que d'aller récupérer des pièces stimées.
On n'a plus envie de stimer.
Et je me rends compte que non seulement c'est bien reçu, mais si, les gens ils se tapent des bêtes de barre, donc je croise des gens après.
Mais tu le partages sur quoi? Sur un blog, c'est ça?
Sur Insta.
Non, c'est sur Insta.
Que sur Insta.
Ouais, faut que tu regardes, tu vas kiffer.
C'est sur Insta, c'est que des stories. Et moi, au début, je me dis, mais personne va ouvrir. Parce qu'en plus, je parle. Il y a des shows, des fois, genre quand je me réveille, je décide que aujourd'hui c'est Balenciaga. On va écrire là. Donc je fais des 60 slides et tout et tout.
Ah ouais.
Genre j'écris, je fais faire des recherches, j'écris, j'ai un calepin à côté de moi.
Ouais, c'est ça.
Pas
c'est
dit,
ça.
On sort dîner, je suis gros, je suis Balenciaga là, il n'y a pas le temps en fait. Ouais. Je finis à 2h du soir, je dis là, on peut sortir. Et j'écrivais beaucoup. Et finalement, comme en plus on est une région qui est petite finalement, les RP ils aimaient beaucoup parce qu'ils avaient déjà du contenu en quantité. Il y a beaucoup de contenu là, les gens ils se font de la voir,
il y a plein de choses
Ouais, c'est reposté, c'est marrant, c'est très accessible parce qu'en plus c'est en anglais, c'est tout public confondu, puisque je reçois des messages de gens qui n'ont rien à voir avec l'industrie et en vrai ils apprennent un bête de trucs parce que des trucs en fait qui tellement moi je baigne dans ma tête et ce qui s'y passe, j'arrive même plus à réaliser que c'est pas une vérité générale, que pour moi tout le monde sait ce que je suis en train d'écrire. Je pense que c'est ça qui est marrant dans le truc. J'écris, je me dis mais ouais, vous allez dire mais bien évidemment, tu vois, genre j'écris le truc et je me dis mais je vous apprends rien du tout. Et en vrai de vrai, quand tu parles à une crowd qui est mainstream, où il n'y a pas forcément
que des geeks comme toi de la mode,
voilà, bah en vrai je sais pas moi, un banquier, un dentiste, il peut taper un bête de kiff. J'ai rencontré un dîner la dernière fois, j'ai rencontré un mec, ouais je suis dentiste, ah là là là, il me dit tu fais quoi, je dis c'est de trouver un moyen de lui expliquer quelque chose qui est d'une distance.
Je donne mon avis.
Voilà. Je donne mon avis et tout. Et je dis, mais je donne où? Et je dis, bah tiens, c'est mon Insta et tout. Et donc je rentre chez moi après le dîner et tout. Il répond à toutes mes stories. J'ai envie qu'il n'y a rien à voir à la mode. Il dit, je me suis tapé une barre et j'ai grave appris des trucs. Demain, je vais flex au bureau.
Trop bien.
Tu vois, alors c'était mortel en vrai.
Génial, ouais.
Et je pense que ces grosses areas de. Je vais focus sur ça de ouf pour là, 2022. Parce que.
Côté éducationnel quoi en même temps.
Ouais, c'est pas juste, c'est pas troller, c'est pas un truc de rageux, c'est pas être marrant pour être marrant. Après, il y a beaucoup de références. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il y a un côté communautaire que j'ai kiffé parce que je fais beaucoup de blagues, des fois des petites références en rebeu et tout.
Ouais.
Et en vrai, ça parle à toutes les diasporas. T'as les rebeux des States qui se tapent une barre parce que j'ai écrit un truc, j'écris Alhamdoulilah en majuscule. T'as les rebeux du golf qui disent ah vas-y c'est mortel et tout, nanana.
Ouais.
T'as les rebeux de France, mais j'ai mes potes de la fac qui se tapent des grosses barres et tout. Donc en vrai, je me dis, mais c'est le côté communautaire, il me plaît beaucoup. Et je me dis, si t'apprends un truc, c'est mortel.
Bien sûr.
Parce que l'effort que ça me demande, il est très minime. Genre moi, comme j'ai l'impression que tout le monde sait ce que je raconte, je suis pas là à me creuser la cervelle et tout.
C'est ce qui sort, quoi. C'est naturel.
Ouais. Bah c'est slam.
C'est le slam.
Le slam de la fashion.
Ouais, le slam. Qu'est-ce que je faisais dans une. Qu'est-ce que je slamais en fait?
Mais c'est drôle que t'aies fait ça. Ouais, c'était à Lyon du coup.
Ah ouais, c'était à Lyon. En fait, j'avais 16 ans.
Ouais.
Ils disent ouais, il y a un atelier et tout. J'étais avec une copine à moi qui s'appelle Amina. Amina, tu nous écoutes. Les dossiers du slam, là. On pense à Watt.
Envoie-nous un MP3 DM, s'il te plaît. S'il te plaît.
Envoie tes petits. On faisait des trucs et tout. Et donc, on allait des ateliers ensemble.
Ouais.
Et j'ai fait ça pendant un an. Et on faisait des scènes ouvertes et tout.
Ah ouais.
On allait lire nos textes en toute confiance.
Très sérieux.
À la confiance.
Ah, mais de toute façon, ça donnait son avis, ça slamait.
Ah ouais. J'ai dit donc, on arrive, on va slammer et tout. Je sais pas. Puis après, ça s'est enfui. Non. Voilà.
Bah, ça s'est transformé, ça s'est traduit.
Il n'y a pas un album qui se prépare là? Tu travailles avec qui à la prod?
Ah là, il y a des sons qui se préparent, on est sur une mixtape et tout. Ça va être mortel en vrai.
Trop bien. Bon, bah merci beaucoup Essa pour ton témoignage.
J'ai
c'est fait. Hyper inspirant. On finit toujours par des petites questions gimmicks.
Vas-y, allez.
On va t'en balancer 5, t'essayes de répondre du tac au tac.
Du tac au tac.
Yes. Ouais.
Allez, vas-y.
C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné ou ton motto ou un conseil que toi tu veux donner à l'audience?
Dis non. Quand t'as pas envie, quand t'es pas à l'aise, tu dis non.
Ah ouais, ça je survalide.
Faut savoir dire non. C'est pas un son de Wallen, ça?
C'est vrai.
Celle qui dit non.
Wallen. Faut savoir dire non et on va dire que c'est la chance de ta vie et tout. C'est pas vrai, il y a une meilleure qui arrive. Dis non.
Ok, bravo.
Est-ce que t'as un talent caché? Bon, tu
le slam.
Dit le slam, donc.
Mais il y en a peut-être un autre.
Un talent caché. Ah, je sais pas.
Bah, le slam, c'est déjà pas mal.
Ah, le ouais, slam, c'est déjà un gros dos.
Ah, c'est un gros dos, ouais.
Un gros dos.
C'est quoi ton guilty pleasure?
Mon guilty pleasure. Genre un truc qui me fait kiffer.
Ouais, mais un peu coupable, genre la télé-réalité, un truc comme ça, quoi.
Ah, coupable, putain. Je sais pas si j'ai un truc qui, que genre j'aurais pas assumé, là. Ouais. Tu vois ou pas? Genre en mode... je sais pas, je me tape des vidéos de Home Keltum des années 90.
Bah non, mais ça, c'est mortel. C'est mortel. C'est mortel.
Putain, alors attendez, oui. J'essaie de réfléchir à un truc éclaqué. Bah, je sais pas, hein.
Non,
un guilty pleasure. Vas-y, j'avais pas. Non. Donne-moi ton, c'est quoi le tien? Comme ça, je suis un peu chauffé.
Je sais pas, ça peut être le chocolat ou les trucs ou tu vois.
Ah
ça
oui, il y a
un
peut-être ça aussi, ouais.
Ah, les noix de pécan couvertes de chocolat.
Ah, voilà.
Ah, ça peut, là, ça peut se poser pendant 40 ouais. minutes. Ça peut.
L'emoji que tu utilises le plus?
L'éponge avec les bulles.
What?
Ouais. J'aime trop cet emoji.
Pour signifier quoi?
Bah, on essuie tout, on recommence.
Ok.
Ou je l'utilise pour dire propre. Genre,
ah,
je commente sur les
nice.
Photos de mes potes, l'emoji avec les bulles, ça veut dire clean.
Ah, donc, je risque potes, de te piquer ça.
Ouais, ça veut dire c'est halal.
Pas mal, pas mal. Le dernier compte Insta que t'as suivi ou un compte que tu veux absolument que les gens suivent? Déjà, le tien pour voir tes reviews.
Ah ouais, les reviews, oui. Le dernier compte Insta que j'ai suivi, je peux regarder en live?
Ouais, bien sûr.
Il est où mon tel?
En attendant, je vous invite à tous aller suivre le compte Insta de Cast, très important.
@cast.podcast. On compte sur vous, il faut partager aussi.
Ah, mais comment je peux savoir? Ils sont pas dans l'ordre, les gens.
Et en haut à droite, il faut mettre par ordre. Ah non.
C'est ceux qui t'ont suivi.
Vas-y, va sur ton compte.
C'est ça, ouais. C'est ça, latest.
Ouais.
Ah, le dernier compte Insta que j'ai suivi, c'est Hotman.
Ah
yes.
C'est un photographe que j'ai rencontré hier et vas-y, j'ai l'impression que j'ai grandi avec lui. C'est.
C'est le sang. Le
ah
sang
ouais,
de la
c'est
veine.
Le sang de la veine.
On adore Hotman.
Follow Hotman Krita.
Yes. Et vas-y, je te laisse finir.
Ah bah oui, c'est moi qui suis late. Est-ce qu'il y a une tendance mode que t'as jamais captée, que t'as jamais...
Les crocs.
Oh non, tu vas la détruire là.
C'est quoi, tu mets des crocs?
Bien
bah
sûr.
Ouais, j'ai adopté.
En vrai, c'est une tendance mode que je kiffe détester, tu vois.
Ouais.
Genre les bas de crocs là, tu peux un peu me voir cavaler là, un
mais
truc,
j'en,
tu vois.
J'en doute pas.
Tu peux, mais j'aime bien pas aimer. Tu vois, genre c'est politiquement correct de
ouais,
pas aimer.
Vraiment,
c'est que
ça,
politiquement
en fait.
Correct de pas aimer, justement.
Je ouais. vous ouais. invite.
Pas ne pas aimer, parce que c'est trop politiquement correct de pas aimer les crocs.
Sonia.
Même Balenciaga, ils font des crocs maintenant.
Ah bah voilà, ouais. C'est bon. Sonia, il faut qu'on ait des custom crocs là.
Il m'en faut.
Je
il
fais
m'en
tourner
faut.
Ça.
Moi, franchement, je dis juste, ne mettez pas vos pieds dedans, sinon vous enlevez plus.
Ah, ça, c'est les mauvais conseils. Faut pas écouter. Ça, c'est les très mauvais conseils.
Bon,
encore merci.
Merci
pour
à vous.
Ton
merci
temps.
À toi, Martel.
Trop cool.